Le journal, bonsoir Frédéric Barrère.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. L'actualité dominée ce soir encore par la guerre en Ukraine qui se poursuit et qui s'étend. Une nouvelle tentative pour évacuer les civils de la ville de Mariupol a échoué et des frappes russes ont totalement détruit l'aéroport de Vinnytsia dans le centre du pays. Près de Kiev, les combats s'intensifient et la ville d'Odessa se prépare à être bombardée. Nous serons en Ukraine dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Le président Emmanuel Macron s'est longuement entretenu avec Vladimir Poutine aujourd'hui, un président russe déterminé à atteindre ses objectifs, soit par la négociation, soit par la guerre. Et puis, aux États-Unis, Anthony Blinken, secrétaire d'État, juge très crédible les informations faisant état de crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. Les États-Unis travaillent avec la Pologne pour fournir à l'Ukraine des avions de combat. Dans le monde, les manifestations de soutien à l'Ukraine se sont multiplié ce week-end. Aujourd'hui, en Allemagne, à Berlin, où les intellectuels se sont mobilisés comme Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature.
L'Ukraine ne se protège pas seulement elle-même, mais elle protège toute l'Europe et protège le monde entier.
Dans ce journal également, Marion Maréchal officialise son ralliement à Éric Zemmour et la très importante mobilisation en Corse lors d'une manifestation en soutien à Yvan Colonna, la page sport de cette édition. Avec au menu la Ligue 1 de football, le top 14 de rugby et 3 médailles pour la France aux Jeux Paralympiques de Pékin. Notre rendez-vous du dimanche 19h, c'est mon actu, Sandrine Houdin et le témoignage coup de poing d'Emma, aide-soignante dans un EHPAD d'Orpea. La météo pour demain, conditions anticycloniques, Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux, Noël Bréham.
Bonjour. Je m'appelle Jeanne, j'ai 8 ans et je souhaiterais savoir comment les Jeux Olympiques ont été inventés. Merci.
Noël Bréham, après ce journal.
France Inter.
11e jour de guerre en Ukraine et une situation toujours plus alarmante qui ne laisse aucune place à l'apaisement ce soir. Plusieurs villes sont bombardées. Mariupol, ville portuaire au sud de l'Ukraine, où la situation est dramatique. Une deuxième tentative d'évacuation de la population civile a échoué aujourd'hui. Et ce soir, les craintes les plus vives concernent la ville d'Odessa. Le président ukrainien Zelensky avertit que les Russes se préparent à bombarder cette ville stratégique et principal port d'Ukraine sur la mer Noire. On retrouve en direct d'Ukraine nos envoyés spéciaux Boris Loumagne et Laurent Macchetti. Bonsoir Boris.
Bonsoir Frédéric.
Vous êtes sur la route à 50 km de Kiev et l'armée russe resserre également son étau autour de la capitale ukrainienne.
Oui, et c'est même l'Élysée qui a prévenu ce soir, la capitale ukrainienne est en passe d'être encerclée, fin de citation. Cela fait plusieurs jours que des colonnes de blindés sont positionnées au nord de la ville. Actuellement, des combats très intenses ont lieu également à la périphérie, notamment à Irpin, au nord-ouest de Kiev, avec des civils qui ont été touchés par des tirs russes alors qu'ils évacuaient leur ville. En partie détruite. Autre ville clé, vous en avez parlé, Mariupol, le grand port de la mer d'Azov, nouvelle tentative d'évacuation qui a échoué encore une fois, comme hier. Et comme hier, les deux camps qui se sont renvoyés la responsabilité de cet échec. Sur place, 450 000 habitants de la ville qui manquent d'eau, qui manquent de nourriture. Et ce, après ces intenses bombardements russes ces derniers jours. Situation catastrophique, disent les ONG. Et puis, un peu plus à l'ouest, à Odessa, au bord de la mer Noire, la Russie qui se prépare donc à bombarder la ville avec cet avertissement du président ukrainien, 1 million d'habitants sur place, un potentiel crime historique sur place, c'est ce que indique Volodymyr Zelensky.
Boris Loumagne, vous avez roulé entre la ville de Lviv, près de la frontière polonaise, et Kiev, vous avez fait la route de l'exil à rebours des réfugiés, vous avez trouvé un pays traumatisé par la guerre ?
Oui, tout à fait. On a pris la voiture hier matin depuis Lviv, cette ville refuge à l'ouest du pays, et nous avons remonté la route de l'exil direction Kiev. À côté de moi, dans la voiture, et en face de moi actuellement, Laurent Macchetti qui assure les moyens techniques. Laurent qui a beaucoup plus d'expérience que moi de ces conflits armés, 30 ans de carrière à Radio France, et qui me disait un peu abasourdi qu'il n'avait jamais vu ça. Et effectivement, c'était impressionnant. La route n'est quasiment qu'un immense bouchon, 200-300 km de bouchon pour rejoindre rejoindre les frontières. Des femmes, des enfants essentiellement, qui passent plusieurs jours dans leur voiture, plusieurs nuits également sur la route. On a vu des habitants des villes, des villages, ceux qui ont décidé de rester, on les a vus se préparer à l'arrivée des Russes en creusant des tranchées, en dressant des barricades à l'entrée des villages. Certains ne sont armés que de fusils de chasse. Ils attendent les Russes de pied ferme, de jour comme de nuit, dans le froid glacial.
Boris Loumagne avec Laurent Maketti à 50 km de Kiev. Merci à tous les deux. L'autre information ce soir concerne la voie diplomatique, aussi mince soit-elle, et l'entretien téléphonique à la mi-journée entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Cet appel à l'initiative du président français a duré presque 2 heures. Le cessez-le-feu est encore bien sûr très loin. Emmanuel Macron a insisté pour que le droit international humanitaire soit respecté. Il a fait part à Vladimir Poutine de ses préoccupations concernant la ville d'Odessa dont on vient de parler. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir.
Vladimir Poutine est apparu très déterminé. Il atteindra ses objectifs soit par la négociation, soit par la guerre.
Oui, c'est mot pour mot ce qu'il a déclaré à Emmanuel Macron qui, en face, eh bien, lui a répété que les exigences russes avant de négocier de démilitarisation, de soi-disant dénazification de l'Ukraine et de reconnaissance des républiques séparatistes du Donbass sont inacceptables. Un Vladimir Poutine campé sur ses positions et sur son déni de la guerre en Ukraine. Il réfute le fait que son armée puisse prendre des civils pour cible. Il renvoie sur les Ukrainiens la responsabilité de l'échec de l'évacuation des habitants de la ville assiégée de Mariupol. Il parle aussi, Vladimir Poutine, de provocation ukrainienne à propos de l'assaut russe. Vendredi matin, vous vous en souvenez, contre la centrale nucléaire de Zaporijia, où l'on est passé très près d'une catastrophe nucléaire de très grande ampleur.
Et c'est sur ce point, Camille, très important, que des centrales nucléaires, que les discussions ont donné des résultats.
Oui, c'est d'ailleurs un point sur lequel la France avait voulu prendre l'initiative, car les Russes, dans leur avancée vers Odessa, pourraient rapidement prendre le contrôle d'une seconde centrale nucléaire ukrainienne près de Mykolaïv. Emmanuel Macron a donc exhorté Vladimir Poutine à s'engager à ce que les centrales ukrainiennes soient tenues hors du conflit, protégées par les règles internationales de l'AIEA, dont la Russie est un État membre. Sur ce point précis, le président russe a donné son accord et il a affirmé, selon l'Élysée, qu'il n'est pas dans son intention d'attaquer les centrales ukrainiennes.
Camille Magnard, merci. Parallèlement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était aujourd'hui en Moldavie après une visite hier en Pologne. Anthony Blinken a jugé très crédible des informations faisant état de crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. Le secrétaire d'État américain a aussi annoncé que les États-Unis travaillent en ce moment à un accord avec la Pologne pour envoyer des avions de combat à l'Ukraine, des avions de guerre soviétiques, en échange de F-16 américains. Les précisions à New York, Loïc Loury.
Depuis le début de la semaine, des responsables américains, dont Anthony Blinken, avaient à plusieurs reprises douché les espoirs de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, quant à la fourniture d'avions de chasse à son pays. Aujourd'hui, c'est pourtant bien le secrétaire d'État américain depuis la Moldavie qui remet cette hypothèse sur la table. Impossible, dit-il, de parler d'un calendrier, mais je peux juste dire que nous étudions cela de manière très active. Les discussions portent sur la livraison à Kiev d'avions de combat polonais, de fabrication soviétique que les Ukrainiens savent piloter, en échange de quoi les Américains fourniraient pour les remplacer des chasseurs F-16 à Varsovie. Une idée simple sur le papier, mais qui devrait se heurter à la réalité. La Pologne en particulier est extrêmement réticente. Nous n'enverrons pas nos avions de chasse à l'Ukraine, dit aujourd'hui Varsovie, ni n'autoriserons l'utilisation de nos aéroports. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et après 11 jours de combat en Ukraine, des manifestations de soutien ont eu lieu ce week-end dans toute l'Europe. En France, hier, plus de 40 000 manifestants ont défilé dans plusieurs villes pour soutenir et sauver l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est Berlin qui manifeste et notamment les intellectuels qui ont fait entendre leur voix pour la paix. Sur place à Berlin, Ludovic Piétenu.
Des historiens spécialistes de la Russie et de l'Europe de l'Est, des artistes, journalistes, écrivains ukrainiens, ces intellectuels de la diaspora prennent la parole à tour de rôle. Dans la foule, bien moins dense que celle de dimanche dernier, on aperçoit des drapeaux de l'Europe, de l'Ukraine ou de la Biélorussie. Ces deux pays où a grandi tour à tour Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015, née d'un père biélorusse et d'une mère ukrainienne. Poutine veut assassiner l'Ukraine, dit-elle. Nous sommes aujourd'hui dans un monde totalement nouveau où nous avons enfin compris que l'Ukraine ne se protège pas seulement elle-même, mais elle protège toute l'Europe et protège le monde entier. Une parole qui suscite des applaudissements dans un pays qui se sent très près de la frontière ukrainienne, très près du conflit, dans un pays qui compte aussi peut-être la plus grande diaspora de toute l'Europe. Les Ukrainiens sont 300 000 à vivre en Allemagne. Bernard Ludovic Piétonu, France Inter.
La guerre en Ukraine, dont on a beaucoup parlé aussi au Salon de l'Agriculture, qui ferme ses portes ce soir à Paris. Cette 58e édition devait être passée sous le signe des retrouvailles, après une année blanche à cause du Covid. Mais la guerre en Ukraine a bouleversé le programme. Au premier jour du Salon, Emmanuel Macron a donné le ton en écourtant sa visite. Plusieurs autres candidats ont également abrégé leur présence au Salon. L'Ukraine était sur toutes les lèvres, avec les répercussions sur les prix du blé et du maïs qui ne cessent de flamber depuis le début de la guerre. Jean-Luc Poulain, le directeur du Salon, avec Delphine Simon.
C'est beaucoup mieux que ce qu'on attendait. On est un peu frustré de ne pas avoir pu rentrer sur le problème de fond qui est la vision de l'agriculture à long terme, parce que on perd 100 000 agriculteurs tous les 10 ans. Nous savions depuis longtemps que nous serions en période électorale pour les présidentielles, mais deux jours avant le Salon, nous n'avions pas prévu l'invasion de l'Ukraine qui a complètement perturbé ce Salon, parce que nous sommes des acheteurs de matières premières mais aussi des vendeurs de matières premières. L'Ukraine, n'oubliez pas que depuis la fin de la période soviétique, est redevenue un grenier à blé, qu'elle a un gros port d'exportation qui s'appelle Odessa, qui aujourd'hui n'est peut-être plus en état de fonctionner. Et pour l'année à venir, quelles productions vont-ils être capables de mettre en place sous les bombes? Tout ça, c'est des questions qui nous préoccupent. On n'est que dans l'interrogation, on n'est que dans l'incertitude, on n'a pas les réponses.
Qu'est-ce que vous attendez du plan de résilience du gouvernement?
Aujourd'hui, les urgences, ça va être la viande blanche. Nos éleveurs, à nous, en France, de porc ou de volaille, est-ce que demain, ils peuvent continuer à produire avec des céréales à ce prix-là? Le 28 février, le blé n'était pas à 340 euros. On se demande si la maison va tenir.
Jean-Luc Poulain, le directeur du Salon de l'Agriculture. La politique, ce dimanche, avec le ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour sur la scène du Zénith de Toulon. La nièce de Marine Le Pen a donc officialisé son soutien au candidat de Reconquête. Les cadres de l'équipe Zemmour assurent qu'il s'agit d'un tournant dans la campagne. Il s'agit sans doute aussi pour Éric Zemmour, avec ce ralliement et ce meeting de Toulon, de balayer les reproches dont il fait l'objet sur la guerre en Ukraine. Sur place à Toulon, Élodie Forêt.
Et oui, c'est effectivement un moment clé pour Éric Zemmour, qui espère faire rebondir une campagne qui a déraillé ces derniers jours. Alors il y a bien sûr ce ralliement de Marion Maréchal, accueilli avec une ferveur extrême, milliers de drapeaux tricolores levés, prénoms acclamés. Marion Maréchal qui a justifié son choix.
Nous allons jouer carte sur table tout de suite. Pourquoi Zemmour? Pourquoi maintenant? Eh bien, je ne vais pas vous mentir. Avec vous, j'ai enfin la certitude que le combat ne sera pas vain, que la recomposition politique va advenir. Je crois de nouveau la victoire possible.
Marion Maréchal, dont la popularité, espère l'équipe Zemmour, pourrait drainer de nouveaux électeurs. Ce meeting, c'est aussi l'occasion, vous l'avez dit, de préciser ses positions controversées sur la guerre en Ukraine, sa relation à Vladimir Poutine.
Non, je ne suis pas d'un camp. Je ne suis pas du camp de Poutine, parce que je ne suis d'aucun camp autre que celui de la France.
D'abord opposé à l'accueil des réfugiés, adoucit aussi à l'instant sa position, expliquant que les Ukrainiens qui veulent venir en France le peuvent le temps des bombardements. Question, est-ce que cela suffira pour inverser la dynamique sondagière? Dans le public, les militants rencontrés sont inquiets. La guerre va profiter à Macron. On espère que les Français ne soient pas aveuglés.
Et Élodie Forêt, en direct de Toulon, merci. Très grande mobilisation cet après-midi à Corté, en Haute-Corse, en soutien à Yvan Colonna. 5 jours après la violente agression d'Yvan Colonna à la centrale d'Arles, 15 000 personnes selon les organisateurs, 4 200 selon la préfecture, se sont rassemblées à l'appel des nationalistes et des syndicats étudiants. Des échauffourées ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Elles ont fait 24 blessés. Dans le même temps, le procureur antiterroriste Jean-François Ricard, en conférence de presse ce matin à Paris, a annoncé qu'une information judiciaire pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste va être ouverte après l'agression d'Yvan Colonna, toujours aujourd'hui dans le coma. Son agresseur, qui a reconnu les faits, est un codétenu de 36 ans, incarcéré pour faits de terrorisme. L'homme va donc être mis en examen pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Ariane Grissel.
Franck Elongabé, qui a admis avoir agressé Yvan Colonna, est connu pour avoir régulièrement écopé de sanctions en détention, allant jusqu'à se réjouir lorsque des attentats étaient commis. Pendant sa garde à vue, ce détenu n'a expliqué son geste que par des motivations religieuses. Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste.
Franck Elongabé a expliqué de manière réitérée son acte par ce qu'il considérait comme des blasphèmes proférés au cours des derniers mois par M. Colonna à l'encontre de Dieu. Il a en particulier souligné une phrase qui aurait été prononcée au cours des tout derniers jours par M. Colonna, déclarant qu'il crachait sur Dieu.
Il s'agit maintenant de déterminer si Franck Elongabet a agi spontanément ou s'il y a eu préméditation, voire des encouragements de la part d'autres détenus. Ce sera l'un des objets de l'enquête qui démarre.
Elle devra permettre de déterminer la totalité de ses contacts, notamment parmi les personnes partageant son idéologie.
Au-delà des faits de terrorisme, la famille d'Ivan Colonna dit souhaiter que l'enquête s'intéresse également à d'éventuelles failles de l'administration pénitentiaire. Les proches du militant indépendantiste se demandent comment deux détenus, dit particulièrement surveillés, ont pu en venir aux mains pendant 8 minutes sous l'œil de caméras de surveillance sans aucune intervention.
19h15 sur France Inter. La page sport de cette édition. Bonsoir Romain Bercher.
Bonsoir.
Football avec une belle affiche pour refermer cette 27e journée de Ligue 1.
Marseille reçoit Monaco à 20h45. Des Marseillais, troisième provisoire au lendemain du succès de Nice contre le leader, le Paris Saint-Germain. Bonsoir Winnie Claret. Winnie Claret en direct du stade Vélodrome pour France Inter. Winnie Claret, est-ce que vous êtes avec nous ? Non, on retrouvera Winnie Claret sans doute un peu plus tard pour parler de cette belle affiche pour clôturer cette 27e journée de Ligue 1. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Lille s'est imposée 4-0 sur la pelouse du promu Clermont. Lille qui remonte à la 7e place au classement. Et puis le Stade Rennais, dans le même temps, conforte sa 4e place après son succès 2-0 contre Angers. Winnie Claret, on la retrouve en direct du Stade Vélodrome. Bonsoir Winnie, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Marseille. Bonsoir, Romain. Pour cette affiche, mais au final, les deux équipes, Marseille comme Monaco, ont quelque chose à jouer.
Absolument, hein, c'est simple. Pour Marseille comme pour Monaco, c'est cap sur l'Europe, la Coupe d'Europe la saison prochaine. Hein. Et pour cela, il faut être tout en haut du classement de la Ligue 1. À 12 journées de la fin, on est entré dans la dernière ligne droite pour tous les prétendants à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa. Alors, à ce jeu-là, l'OM tient la corde. Troisième du championnat avant le match de ce soir, une victoire et les Phocéens reprennent la deuxième place à l'OGC Nice. Mais attention, parce que derrière, ça pousse fort avec notamment Rennes et Strasbourg. Pour Monaco, c'est plus compliqué. Les Monégasques qui restent sur une défaite le week-end dernier à Louis II face à Reims. L'ASM est 10e de Ligue 1. Mais si le club de la Principauté l'emporte ce soir au Vélodrome, il grimperait à la 8e place et serait encore dans la course de l'enjeu. Donc Romain, sur la pelouse du Vélodrome ce soir, entre 54 et 56 000 spectateurs attendus. Ça promet un stade Vélodrome résolument européen. Il s'illuminera aux couleurs de l'Ukraine en jaune et en bleu avant le coup d'envoi à 20h45. Et ce, pour chaque match jusqu'à la fin de la guerre.
Winnie Claret en direct du Stade Vélodrome de Marseille pour France Inter. Coup d'envoi de ce match Marseille-Monaco à 20h45.
En top 14 avec deux clubs qui se connaissent très bien.
Effectivement, c'est le traditionnel classico pour refermer cette 20e journée de championnat. Les rugbymen du Stade français qui reçoivent ceux du Stade toulousain. Des Parisiens 10e, des Toulousains champions de France, on le rappelle, qui espèrent réintégrer au plus vite les 6 premières places. Ce sera pas simple avec sur la pelouse le Fidjien Wessea, 2e meilleur marqueur du championnat dans les rangs du Stade français. Et ça a le don d'inquiéter Laurent Thuéry, c'est l'entraîneur de la défense toulousaine.
Je pense qu'il est surveillé tous les week-ends et que tous les week-ends, heureusement pour le Stade français, malheureusement pour les défenses adverses, il trouve des solutions. Mais bien sûr que c'est un joueur sincèrement incroyable qui débloque des situations à lui tout seul. On l'a malheureusement vu au Stadium il y a 3 semaines où il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais lui il l'a trouvé et il a fait jouer Makalou qui conclut cette action. Donc la tâche s'annonce rude, mais bien sûr qu'il faut qu'on se prépare à faire un gros match et essayer que ces joueurs-là ne brillent pas si on veut nous exister, bien entendu.
Stade français, Stade Toulousain, coup d'envoi 21h05, un championnat de top 14 qui est toujours dominé par Bordeaux-Bègles. En MotoGP, la saison démarre timidement pour Fabio Quartararo, le champion du monde en titre, le Niçois, qui a terminé 9e du Grand Prix du Qatar, coiffé sur la ligne par un autre Français, Johan Zarco. Grand Prix remporté par la surprise du jour, l'Italien Enea Battiastini.
Et la Coupe Davis de tennis, Romain, qui pourrait bien revenir en France?
Et après un week-end où les Bleus se sont qualifiés pour la phase de poule en battant très facilement l'Équateur, c'était à Pau, la Fédération française de tennis se porte candidate pour accueillir l'une de ces 4 poules. Et pour son président Gilles Moreton, le lieu reste à définir.
C'est une candidature qui est un peu dans l'inconnu, puisque là, ce sont 4 poules de 4. Donc on peut imaginer que 16 pays fassent acte de candidature. Maintenant que la France est qualifiée, on va pouvoir recevoir le cahier des charges, savoir quels sont les palais des sports, les stades qui peuvent être candidats et disponibles surtout le 12 septembre.
Roland-Garros peut être un site ?
Ouais, en fonction des contraintes de l'ITF, est-ce que c'est la surface ? Est-ce qu'il faut un stade couvert, véritablement couvert ? Puisque le statut de Roland-Garros, du stade Roland-Garros, même avec son toit, est un statut particulier. Et on pourrait imaginer que des villes soient candidates, mais que Roland-Garros puisse aussi postuler éventuellement.
Le président de la Fédération française de tennis au micro inter de Fabrice Abgral.
Les Jeux paralympiques de Pékin maintenant, avec deux nouveaux espoirs de médailles la nuit prochaine.
La France en compte déjà trois, la dernière en argent, décrochée par Marie Bochet en ski alpin sur le Super G. Cette nuit, on suivra de près les finales en snowboard cross et notamment Laurent Vaglica. Retenez ce nom, il est considéré comme la relève de ce sport. Amputé d'un pied après un accident de moto en 2015. À 29 ans, il vient donc de réaliser sans doute le rêve de sa vie, disputer une finale olympique. Et il a beaucoup d'émotions.
J'ai tellement traversé l'épreuve et pour en arriver là. Et j'étais même pas prévu pour ces jeux-là 10 jours avant. Et il y a la sélection qui tombe. Enfin, je suis un débutant si je suis à même pas 50% de ma marge de progression, de ce que je devrais être capable de faire et pour être vraiment au top. Tu sais, j'exagère pas. Donc, puis j'ai eu des soucis de famille que je pense très fort à lui juste avant de venir. Donc, entre le stress, l'adrénaline et le plaisir, ça fait beaucoup. Là.
Ouais, des étoiles plein les yeux, c'est ça aussi le rêve olympique. Les épreuves de snowboard cross, c'est demain matin à partir de 4h30.
On quitte Pékin pour s'intéresser maintenant à un sport d'escalade qui est à la côte. Et on est très loin d'Acrobranche. C'est l'escalade indoor, l'escalade en salle qui est en plein boom. Dans les clubs de quartier ou les salles privées, un peu partout en France, les amateurs se bousculent. On recense plus d'un million de pratiquants en France. Hommes, femmes et enfants araignées sur un mur d'escalade, Adèle Belloumri nous amène dans une salle, la plus grande salle d'escalade en France. C'est le long format de ce soir.
Dans le 13e arrondissement de Paris, à la Porte d'Italie, le centre d'escalade Climb Up ne désemplit pas. Même un soir de semaine après 18h, il est blindé. La plus grande salle d'escalade de France accueille plus de 700 personnes chaque jour.
Il y a déjà de l'émulation, hein, ça grimpe bien, ça vit.
Celui qui nous fait la visite, c'est
Louis Fonluc, directeur d'exploitation pour le groupe Climb Up sur l'île de France.
Là, on voit quelqu'un avec un maillot de Zidane, des gens avec des équipements professionnels, il y a de tous les niveaux.
On a vraiment du néophyte complet, hein, qui vient découvrir cette activité. Et à la fois, on a vraiment un public expert. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait effectivement un athlète qui est venu, qui était aux Jeux Olympiques à Tokyo, Michael Mawem. Et c'est ça qui agrève dans la pratique, c'est finalement assez rare dans une activité de pouvoir grimper à côté potentiellement d'un champion du monde.
Moi autour de moi, je vois beaucoup de murs, beaucoup de couleurs.
Chaque couleur, c'est comme sur une piste de ski, c'est une difficulté. Ils savent en fonction de leur niveau qu'ils vont pouvoir aller dans tel niveau de difficulté. Voilà, donc là, la personne utilise juste les prises, en l'occurrence vertes.
Bonjour.
Bonjour.
C'est comment votre prénom ?
C'est Fred.
Vous en faites souvent de l'escalade ?
Un minimum deux fois par semaine avec des séances de 4-5 heures. C'est des grosses séances.
Vous touchez plusieurs prises en même temps, de plusieurs couleurs. Là, vous avez les mains sur deux prises vertes, par exemple.
On choisit la voie, la couleur en fait, qu'on a envie de faire, sachant qu'il y a des niveaux de difficulté par couleur. Donc là, par exemple, je fais une voie verte qui est en fait une voie, on va dire, moyenne, peu difficile en fait.
Et quand on a fini, on fait quoi ? On redescend ?
Et quand on a fini, on saute.
Fred fait du bloc, l'une des disciplines de l'escalade, comme Sophie, 27 ans, un peu plus loin.
Au départ, c'est des amis qui m'ont emmené. J'ai vraiment bien accroché parce que c'est assez ludique. Il y a un objectif assez clair d'atteindre le haut, donc c'est facile de s'y mettre et facile de garder un objectif clair.
Un sport très ludique qui plaît aussi beaucoup aux enfants.
Et
qu'est-ce que c'est l'escalade ?
C'est monter avec des prises sur des murs.
Ça fait mal aux mains.
Ça me libère. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux.
C'est bien.
Et quand tu essayes de relever des défis, quand tu y arrives, t'es trop content.
Selon Alain Carrière, le président de la Fédération française montagne et escalade, le succès de la pratique n'est pas prêt de s'arrêter chez les enfants.
Aujourd'hui, quand une collectivité construit un équipement sportif, généralement, elle pense à mettre un agrès d'escalade. Parce qu'on en parle, parce que c'est au JO, parce que l'escalade est un des sports les plus pratiqués dans les écoles.
Autre preuve de l'explosion de la pratique en France, le groupe Climb Up inaugurera au printemps à Aubervilliers la plus grande salle d'escalade d'Europe.
L'escalade qui sera discipline olympique aux Jeux Olympiques de Paris, elle sera présente à Paris 2024. Adèle Belloumri.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Une semaine marquée par la guerre en Ukraine avec notamment jeudi à Versailles le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne autour d'Emmanuel Macron. L'actualité de la semaine, c'est aussi la campagne pour l'élection présidentielle et le premier déplacement demain lundi du candidat Macron en Ile-de-France. Autre rendez-vous de la campagne à la télévision dans un duel des droites. Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen s'affrontent à la télévision dans un débat sur TF1. Le rendez-vous est jeudi. Mardi, manifestation dans toute la France à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Et puis sur l'agenda judiciaire, à noter mercredi le verdict au procès de l'assassinat du père Hamel. On terminera la semaine samedi avec look-up et des marches dans toute la France pour replacer le climat au centre de la campagne présidentielle. L'actualité la semaine prochaine, c'est aussi la grève dans les EHPAD d'Orpea. C'est mon actu, Sandrine Houdin, pardonnez-moi, micro ouvert ce soir à Emma. Mardi, elle manifestera avec ses collègues dans toute la France devant le siège d'Orpea. Le groupe, on s'en souvient, avait été gravement mis en cause en janvier dernier dans le livre Choc, Les Fossoyeurs, en dénonçant la maltraitance dans ses EHPAD. Emma est aide-soignante dans un des établissements les plus luxueux du groupe, les Vignes de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Un témoignage choc. En dépit des prix prohibitifs, le groupe ment, dit-elle, sur les prestations annoncées aux familles. Quelques exemples avec Emma.
J'ai une collègue qui a pris une photo pour pouvoir montrer la situation d'une résidente qui était par terre et nue, pour pouvoir après, en transmission, donner à l'infirmière.
Qui ne vient même pas.
Ben non, qui vient pas, mais elle est toute seule pour 90 résidents. Le pire qu'on a eu, c'est le décès d'une résidente pour déshydratation. On retrouve plus de 10 bouteilles d'eau dans sa chambre, mais le manque d'effectifs fait qu'elle n'arrivait pas à ouvrir ses bouteilles d'eau toute seule. Elle n'a pas pu boire, mort par déshydratation. Mourir de déshydratation alors que tu as 10 bouteilles d'eau dans ta chambre, mais parce que personne ne peut ouvrir le bouchon, c'est un scandale. Puis derrière ça, quand même, on dit à la famille que c'est une mort naturelle. Hein. Mais c'est faux. On leur vend du rêve. Tout est beau, tout est machin, ceci, cela, oui. Mais à l'intérieur, ils sont dans une prison cage dorée. On va leur dire, vous avez des activités, vous avez des animations, mais la plupart du temps, ils sont devant la télé, c'est ça l'animation. Et quand on sait que le week-end, il y a les familles qui viennent et tout et machin, c'est là où on va édulcorer. Mais il se passe rien. Jusqu'à l'heure du coucher, 19h45, t'as regardé la télé, et après, t'as une soignante qui va passer te caresser l'épaule. Madame machin, ça va, oui, c'est reparti. On n'a pas le temps. On le voit dans leur regard, et puis même il y en a certains qui vous disent, mais vous partez déjà, j'ai pas eu le temps de parler avec vous. Ah ben madame, je reviens, mais tu sais que tu mens. Tu vas pas revenir. Moi, je ne mettrai jamais, quoi qu'il m'en coûte, mon parent dans un EHPAD. Jamais, jamais, jamais.
Mélangez pas tous les EHPAD non plus.
Comment ça, mélangez pas toutes les EHPAD non plus? Que ce soit Domus Vie, que ce soit Orpea, que ce soit Corian, c'est exactement la même chose. C'est devenu des usines à stockage. Croyez-moi, vos parents, ils sont pas bien traités. Vos parents, ils souffrent. Combien de résidents on a toute la journée, ils sont là, ils pleurent. Et ils nous le disent, si j'avais su que ma vie, elle allait finir comme ça, je me serais tuée avant. Voilà les phrases que nous, on entend. Et quand t'entends ça, t'as mal au cœur. Parce que tu vois ta mère en face. Comment tu peux faire ça? Et le jour où ils savent que vous venez, ils arrangent tout pour que vous pensiez que vos parents, ils sont bien. Mais ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Ils pleurent toute la journée. Ils pètent des câbles. Faut faire quelque chose. C'est dur. Même nous, des fois, on coule des larmes. Des fois, tu vas sortir de la chambre d'un résident, t'es stone, tu vas t'asseoir parce que t'as l'impression que ton cœur, il va s'arracher de voir leurs conditions de vie. Moi, j'aimerais pouvoir m'arrêter 10 minutes et m'asseoir, madame, ça va et tout, votre journée. Ils ont personne. Les collègues, elles sont débordées. C'est une usine. Ceux à qui on doit changer les protections, dont on peut pas faire la toilette avant 10h30, 11h, ben, ils sont dans le pipi. Vous arrivez, les lits sont souillés. Des fois, ils sont mouillés jusqu'au-dessus de la nuque. Mais tu le vis mal. T'as la boule au ventre. Quand on rentre chez nous, on se sent complice. On a des revendications financières parce que oui, il faut bien qu'on mange, mais ça va au-delà. À ces patrons-là, je leur dirais, bah en fait, finalement, vous vous plaignez du livre, mais c'est ce que vous êtes. Des fossoyeurs. Vous êtes des machines à fric. L'humain, vous en avez strictement rien à carrer. Vous ne pensez qu'à l'argent. Donc ouais, le mot fossoyeur, eh ben, il vous voit très bien. Vous êtes des arnaques. Vous êtes une bande de malfaiteurs. Voilà ce que vous êtes.
C'est mon actu, Sandrine Houdin, avec Emma, aide-soignante chez Orpea. La météo pour demain.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Cette nuit, les gelées vers 0, moins 3 vont gagner pratiquement partout avec des valeurs extrêmes jusqu'à moins 7 prévues sur les régions de l'Est. C'est la rançon payée aux conditions anticycloniques qui maintiennent un ciel bien dégagé avec à nouveau ce lundi du soleil sur la plus grande partie du pays et par moments des passages de paquets de nuages un peu plus denses à prévoir le long des Pyrénées et des Alpes à la Provence, mais a priori ce sera sans précipitation. Les températures de l'après-midi, à l'abri du vent, vont afficher 6 à 8 degrés du nord de la Loire à l'Alsace, 10 à 12 sur les régions centrales, du pays nantais au Poitou-Charentes et du centre au Lyonnais, et 12 à 14 autour de la Méditerranée et dans le quart sud-ouest.
Jean-Michel Golinski de Météo France.